les ennemis n'ont pas réussi à faire avancer leur dernier complot visant à bloquer les progrès de l'Iran, a souligné le président iranien. Un soldat israélien a été grièvement blessé lors d'une fusillade contre des colons et des soldats israéliens à Naplouse, et une délégation de la CEDEAO se rend au Burkina Faso ce 3 octobre. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les ennemis n'avaient pas réussi à faire avancer leur dernier complot visant à bloquer les progrès du pays. S'exprimant lors d'une réunion dimanche 2 octobre, M. Raisi a souligné le récent battage médiatique occidental contre la République islamique d'Iran, affirmant que la mort de Mademoiselle Mahsa Amini fait l'objet d'une enquête approfondie par les organes étatiques compétents. L'ennemi essaie, par de vastes mesures médiatiques, de détourner l'opinion publique. Nous voyons qu'un groupe de filles afghanes sont tuées dans un établissement scolaire par des terroristes qui ont le soutien des États-Unis. Mais il n'y a aucune réaction de la part de ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, a déclaré M. Raisi. Dans ces conditions, la prétention de l'Occident à se procurer des droits de l'homme et des droits des femmes semble-t-elle acceptable ? S'est-il interrogé. Selon les Nations Unies, au moins 35 personnes ont été tuées et 82 blessées dans l'attentat à la bombe qui a eu lieu vendredi au centre d'éducation Gaj dans le quartier d'Ashtebarchi de Kaboul, la capitale afghane. L'attaque terroriste a été perpétrée dans la section des femmes d'une salle d'études où des centaines d'étudiants passaient un examen d'entrée simulé pour l'admission à l'université. La plupart des victimes étaient de jeunes femmes appartenant à la communauté chiite Hazara, historiquement opprimée. Jusqu'à présent, aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Cependant, le groupe terroriste Daesh a déjà organisé des attaques dans des zones à prédominance chiite, ciblant des filles, des écoles et des mosquées. Dans une autre partie de ses remarques, le président iranien a déclaré que les ennemis du pays avaient comploté en vain pour empêcher le progrès de l'Iran. Au moment où la République islamique d'Iran surmonte les problèmes économiques et plus activement présente dans la région et dans le monde, les ennemis sont entrés dans l'arène pour isoler le pays. Mais ils ont échoué dans cette conspiration, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a annoncé dimanche 2 octobre qu'aucun accord n'avait pu être conclu pour renouveler la trêve qui vient d'expirer dimanche entre les parties belligérantes yéménites. Le Conseil suprême politique yéménite a réitéré la nécessité de la réalisation des revendications légitimes du peuple yéménite, dont la fin du blocus et des agressions saoudiennes, pour accepter la reconduction de la trêve. Le peuple yéménite ne se laisserait jamais duper par les promesses mensongères et il reste déterminé à rétablir ses droits face aux ennemis agresseurs à qui incombe la responsabilité du gel du processus de paix. Le mouvement Ansar Allah a annoncé qu'il n'accepterait la trêve à moins que les salaires et pensions de tous les fonctionnaires dans les régions sous son contrôle soient payés des revenus du gaz et du pétrole qui sont entre les mains du gouvernement déchu yéménite et ses protecteurs saoudiens, émiratis et américains, et que le blocus du Yémen et le siège de l'aéroport de Sana'a et du port de Hudaydah soient levés. Dans les villes contrôlées par Ansar Allah, des milliers de fonctionnaires n'ont pas été payés depuis plus de 7 ans. La trêve entre le gouvernement déchu et Ansar Allah est entrée en vigueur le 2 avril dernier et a ensuite été renouvelée deux fois jusque 2 octobre. Un porte-parole du mouvement de résistance palestinien Hamas a déclaré que les tirs dans diverses parties de la Cisjordanie étaient une réponse aux incursions des colons israéliens dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Les opérations de tirs successives dans diverses parties de la Cisjordanie, les dernières à Naplouse et à Jenin, s'inscrivent dans le cadre d'une révolution populaire qui s'intensifie en réponse à la prise d'Al-Aqsa et aux provocations des colons, a déclaré Abdel-Latif al-Ranou dimanche dans un communiqué. Il a également salué un groupe de combattants de la résistance appelé les Lions de Naplouse pour avoir mené des attaques de représailles contre des soldats et des colons israéliens à Naplouse et appelé à un plus grand soutien aux combattants en Cisjordanie. Dimanche, un colon israélien aurait été blessé lors d'une fusillade palestinienne visant son véhicule sur une route entre Beit Horik et la colonie d'Elon Moreh, à la périphérie de Naplouse. Des combattants de la résistance palestinienne ont également ouvert le feu sur un bus israélien circulant sur la même route avant de se retirer de la zone. Le véhicule et le bus ont subi quelques dommages. Azem Rassem, un porte-parole du Hamas, a salué les attaques, affirmant que la révolution du peuple palestinien persistera jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Les médias israéliens ont rapporté plus tard dimanche qu'un soldat israélien avait reçu une balle dans la jambe sur une route entre la colonie d'Itamar et la base de la brigade régionale militaire de Samarie. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, aurait également été blessé lors des tirs. Les troupes israéliennes avaient lancé une chasse à l'homme pour les tireurs qui se seraient retirés de la zone en toute sécurité. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a déclaré dimanche soir dans un communiqué avoir pris note de la décision du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo-Damiba de renoncer à ses fonctions de président de la transition du Burkina Faso après avoir été renversé vendredi par un groupe de militaires conduit par le capitaine Ibrahim Traoré. Je prends note en particulier de la décision du lieutenant-colonel Damiba de renoncer à ses fonctions de président du gouvernement de transition du Burkina Faso afin d'éviter une confrontation violente et un éventuel bain de sang, a écrit dans une déclaration le général Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO. Au nom de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, M. Embalo, également président de la République de Guinée-Bissau, a salué les différentes parties au Burkina Faso pour avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends. Cependant, il a exhorté les autorités burkinabées à respecter l'engagement pris avec la CEDEAO. M. Embalo a en outre annoncé qu'une délégation de la CEDEAO se rendrait au Burkina Faso le 3 octobre. La Chine exhorte les groupes armés à l'est de la RDC, République démocratique du Congo, à immédiatement déposer les armes, indique un communiqué publié dimanche 2 octobre de l'ambassade de Chine en RDC. La Chine exprime son appui au gouvernement congolais et exhorte les groupes armés à l'est de la RDC à immédiatement déposer les armes, à respecter les appels à la paix et à participer au dialogue politique et au processus de désarmement et de démobilisation, note le communiqué. Ce communiqué est rédigé à l'occasion de l'examen du dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en RDC. L'ambassadeur Dai Bing, représentant permanent adjoint chinois auprès de l'ONU, a condamné l'escalade de la violence dans l'est de la RDC et a mis l'accent sur le retour de la stabilité, une priorité absolue selon lui. M. Dai souhaite que la MONUSCO s'adapte à la situation et aux attentes du gouvernement congolais et de la population congolaise. La Chine soutient la MONUSCO à renforcer ses échanges avec le gouvernement congolais afin d'effectuer son plan de transition de manière stable, ordonnée et responsable, conclut le communiqué. Le président sortant du Brésil, Jair Bolsonaro, et l'ancien président, Luiz Inácio Lula da Silva, participeront au second tour de l'élection présidentielle le 30 octobre, a annoncé dimanche le Tribunal supérieur électoral TSE du Brésil. À l'issue du dépouillement d'environ 99,6% des machines à voter, M. Lula a obtenu 48,3% des votes contre 43,3% pour M. Bolsonaro, a déclaré le TSE. Selon la loi électorale brésilienne, un candidat doit obtenir plus de la moitié des voix pour être élu dès le premier tour. Le président du TSE, Alexandre de Moraes, a indiqué plus tôt que la journée s'était déroulée normalement, sans incident majeur. Au total, 156,4 millions de Brésiliens étaient appelés à participer aux élections du président, du vice-président, des gouverneurs, des sénateurs et des députés fédéraux et d'État. Voilà, si ça achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. comment Nasrallah a fait plier l'échine à Israël. Ce tonitruant discours que Saïd Hassan Nasrallah a tenu ce 1er octobre, soit à peine 24 heures après que l'ambassadeur américain au Liban eut remis au président libanais les propositions US sur la démarcation des frontières maritimes palestino-occupées Liban, l'axe US-OTAN aurait largement tort d'interpréter comme un prélude au temps serein à venir. Certes, Nasrallah s'y est montré plutôt optimiste pour avoir forcé l'axe US-Israël sans tirer un seul missile, et seul à l'appui de 3 drones de reconnaissance et 3 clips vidéo mettant en scène la force du Hezbollah à jeter du lest et à reconnaître, chose inouïe, en 70 ans d'existence illégale, le droit d'un pays voisin, qui est de se croire son rival et ennemi juré, à exploiter le gaz là où, lui, Israël, a le soutien de l'axe US-Israël pour fouler aux pieds ce droit. N'empêche que ce discours a été l'un des plus guerriers que le haut commandant n'a jamais prononcé. La divulgation des détails sur le plan du médiateur américain Amos Hochstein sur la question de la démarcation des frontières maritimes entre le Liban et la Palestine occupée et les droits libanais au pétrole et au gaz montre qu'Israël semble avoir cédé aux exigences de la partie libanaise en acceptant un recul clair face aux menaces du secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah. Le Liban et Israël, des voisins officiellement en état de guerre, négocient depuis 2 ans par l'intermédiaire des États-Unis pour délimiter leurs frontières maritimes et ainsi lever des obstacles à la prospection et l'exploitation de gisements offshore. Dans sa première réaction à ces développements, le Premier ministre israélien Yair Lapid a indiqué dimanche, 2 octobre, avoir aussi reçu la proposition américaine faisant état de la possibilité d'un accord entre les deux parties. Nous ne pouvons pas encore dire qu'il s'agit d'une affaire conclue, mais comme nous l'avons souligné dès le premier jour, cette proposition répond à tous les intérêts diplomatiques et sécuritaires d'Israël, a-t-il annoncé, ajoutant qu'Israël ne s'oppose pas au développement d'un gisement de gaz supplémentaire du Liban, duquel Tel Aviv recevra sa juste part. La déclaration de Lapid est intervenue quelques heures seulement après que les médias libanais et israéliens ont diffusé les détails du plan proposé par le médiateur américain. Sur la base des derniers développements, l'issue du différend entre les deux parties dans le champ gazier de Karish aurait terminé en faveur de la partie libanaise. Israël aurait accepté de renoncer à toutes ses revendications précédentes en échange d'une redevance en espèces. Selon les dispositions divulguées de l'éventuel accord, la société française Total, qui étant engagée à extraire et explorer pour le Liban dans ses eaux territoriales, est censée commencer ses opérations dans les eaux territoriales du Liban immédiatement après la conclusion de l'accord entre Beyrouth et Tel Aviv. Sans faire référence aux menaces précédentes du secrétaire général du Hezbollah, Lapid a ajouté « Après la conclusion de cet accord, les frontières nord d'Israël seront plus sûres et nous pourrons exploiter les réserves de gaz du champ. » Bien que Lapid ait essayé de faire passer l'éventuel accord comme la version gagnant-gagnant pour Tel Aviv, de nombreux journalistes, reconnaissant la satisfaction des exigences du Hezbollah dans l'accord susmentionné, ont évoqué la présence de clauses confidentielles au détriment d'Israël. Israël a renoncé à ses revendications sur toutes les zones contestées et le Liban contrôlera en pratique le champ gazier de Rana, a écrit la journaliste du Jerusalem Post, Lara Farkov, accusant le cabinet israélien de dissimuler délibérément les détails de l'accord. Évoquant l'échec de la diplomatie israélienne afin de tirer parti de l'affaire comme un pas vers la normalisation des relations politiques entre Israël et le Liban, elle a ajouté que malgré l'accord actuel, Beyrouth ne reconnaîtrait toujours pas Israël. La journaliste poursuit que l'accord mentionné ne traitait pas de la démarcation des frontières terrestres entre les deux parties, d'où les vives critiques de l'opposition au cabinet de Lapid. L'Institut de recherche sioniste a également annoncé son intention de porter plainte devant la Cour suprême pour contraindre Lapid à répondre sur les aspects non divulgués de l'accord. Cet institut a exigé l'arrêt de la mise en œuvre de l'accord et la tenue d'un référendum afin d'obtenir les votes de tous les sionistes sur la question.